Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue après ces longues vacances, après ces fêtes. Et oui, on était tous Noël, on a passé Noël, on a passé le premier de l'an et justement, les auditeurs et à tous les auditeurs, je souhaite une merveilleuse année, une bonne année 2025. J'espère qu'elle sera bonne, qu'elle sera excellente même et que le soleil brillera pour la plupart des gens qui nous écoutent. On a besoin d'une bonne année et on a besoin de réchauffer nos cœurs un peu parce que c'est vrai que les conditions en ce moment ne sont pas très bonnes. Donc, bonne année à tous et voilà. Alors, aujourd'hui, on accueille un monsieur qui s'appelle Daniel Robin. Alors, Daniel Robin est un ufologue qui a écrit plusieurs livres, dont Les Triangles de la Nuit. Et il a écrit aussi un autre livre qui s'appelle « Du secret officiel aux limites de la science ». Donc on va en parler, avec lui aujourd'hui. Alors Daniel Robin, qui est Daniel Robin ? Alors il a fait des recherches approfondies dans le domaine de la religion et de la spiritualité, ça c'était à ses débuts. Passionné d'astronomie et d'exobiologie, il a toujours été fasciné par la question de savoir s'il existait d'autres civilisations évoluées dans l'univers, d'où son engagement dans l'étude des ovnis. Il est en effet président de l'association OVNI Investigation, qui est basée à Lyon, qui compte de nombreux adhérents dans toute la France. Ses recherches l'ont amené à effectuer des enquêtes sur le terrain auprès de témoins directs du phénomène OVNI. Donc on va voir avec ce grand monsieur de l'ufologie exactement ce qu'il en retourne. Et puis on va parler des triangles, des ovnis triangulaires, ces fameux ovnis que l'on voit, qui ont une forme de triangle. Et on va essayer de voir avec lui de quoi il s'agit. Et on va essayer de parler du fait ufologique vu par Daniel Robin, comment il voit l'ufologie, de quelle manière il la voit lui, puisqu'on a déjà eu des gens qui parlaient d'ufologie et vous avez l'habitude d'avoir des sujets ufologiques sur les ondes de la radio, d'autres radios. Donc on va en parler avec lui. Alors Daniel, bonjour.
Bonjour Patrice, merci de m'inviter à ton émission. À mon tour de souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à tous tes auditeurs. Et ça me fait très plaisir de participer à ton émission. Merci.
Mais c'est avec un grand plaisir parce qu'en fait, on est une radio on passe des sujets justement qui permettent un petit peu d'ouvrir les consciences un petit peu, je dirais. Bon, on a certaines limites qu'on ne dépasse pas, bien sûr, mais on essaye d'ouvrir les consciences et puis on essaye de montrer aux gens que, effectivement, il y a des phénomènes qui sont inexpliqués et qu'on peut analyser et qu'on peut éventuellement étudier parce que dans la science, tout le monde, la science rejoint l'ufologie et c'est pas parce qu'on fait de l'ufologie qu'on est dans un domaine, je dirais, ésotérique, on est dans un domaine scientifique, puisque tout s'étudie sur le plan scientifique quand il s'agit de vie dans l'univers, puisque les plus grands astrophysiciens du monde font de la recherche d'exoplanètes, donc pour rechercher de la vie, donc pourquoi pas étudier les ovnis, voilà, tout simplement. Alors, justement, parle-nous un petit peu de comment tu en es venu à faire de l'ufologie.
Eh bien, c'est une histoire qui remonte, je dirais, à ma prime enfance, au début de l'adolescence, hein, surtout. J'étais un grand lecteur de livres, alors sur tous les sujets un petit peu qui touchaient au mystérieux, hein. Je lisais beaucoup une collection qui s'appelle L'Aventure mystérieuse, qui était publiée aux éditions J'ai lu, qui existe toujours d'ailleurs. Et j'ai presque toute la collection de ces livres, avec une couverture bordeaux, rouge un petit peu. Et donc j'ai lu les livres de Frank Edwards, de Erik van Däniken. À l'époque, c'était des auteurs qui publiaient des ouvrages sur les ovnis. Après, j'ai beaucoup lu aussi, au début de l'adolescence, hein, j'ai lu Jacques Vallée. Alors, j'ai commencé à découvrir Jacques Vallée. J'étais très impressionné par tout ce que Jacques Vallée a écrit. Et puis, bien sûr, après, par la suite, j'ai commencé à lire tous les ouvrages de Joël Ménard, Gildas Bourdet, Jean-Gabriel Grélet, enfin, tous ces auteurs dont les ouvrages était disponible dans les années 80, 90 et 2000, tu vois. Alors c'est toujours un sujet qui m'a passionné parce que je pense qu'on est là en face d'une vraie énigme qui n'a pas encore été résolue, selon moi, qui n'a pas encore été résolue. Et malgré le nombre d'études, d'ouvrages, d'enquêtes qu'on a pu faire sur ce sujet, je crois qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur le phénomène OVNI. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que bon, si on savait tout déjà, ça serait beaucoup moins intéressant et beaucoup moins excitant. Mais voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre. Alors cela dit, les auteurs que je viens de citer nous ont appris beaucoup. C'était, surtout en France, c'était des pionniers, hein, ceux qui ont osé écrire sur ce sujet. Souvent, moi, à l'époque, je me souviens, le sujet OVNI en France, du moins, était un sujet qui était pas considéré comme sérieux. Les ufologues étaient considérés comme des gens un peu marginaux, illuminés, entre parenthèses, c'est-à-dire que s'intéressant à des choses quasiment irréelles. Et heureusement, les choses ont bien changé et maintenant, le sujet OVNI est devenu, même en France, un sujet sérieux, traité maintenant moins à la rigolade et lorsqu'on parle d'OVNI, maintenant les gens prêtent l'oreille.
Je crois que
Voilà.
de toute façon, c'est un sujet qui porte à questionnement parce que dans les années 50, on a commencé à en parler avec des fameux crashs d'ovnis sur Roosevelt et qui ont commencé à faire parler d'ufologie. Et après, on a effectivement grimpé dans la sphère ufologique pour parler d'observations de gens qui en voyaient. Mais ça, tant le GEPAN a ouvert. Après, il y a des enquêtes du GEPAN qui ne sont pas des enquêtes, je dirais, qui sont très positives parce qu'elles ne... Elle ne reflète pas ce que les gens aimeraient et attendent des enquêtes officielles. Mais on a toujours dénigré un petit peu en France ce genre de phénomène en rabaissant un peu les gens en disant ce que vous avez vu, c'est pas du tout un ovni, c'est autre chose. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'ouverture qui se fait. Et dans le monde entier, même aux États-Unis, il y a des dossiers qui sont déclassifiés et on commence à prendre connaissance en fait du fait que ben, tout ce qu'on nous a raconté pendant des dizaines d'années en disant qu'on hallucinait, en fait, c'était de la vérité, c'était tout simplement la vérité, c'était tout simplement des vrais engins qui viennent d'on ne sait pas de quelle dimension et qui sont effectivement des ovnis, c'est-à-dire objets volants non identifiés, mais qui sont aussi peut-être des objets habités par des êtres exogènes. Donc, on se rend compte effectivement, comme tu le dis, que c'est un phénomène qui aujourd'hui peut-être prend de l'importance. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça prend de l'importance?
Bien sûr, tout à fait, oui, c'est ce que j'ai dit précédemment. Alors, ce qui est bien, tu as souligné quelque chose d'important. En France, en fait, on a vécu un grand paradoxe. Je dis souvent ça parce que d'un côté, en même temps, enfin, le dossier OVNI était déconsidéré, surtout par les médias, par la télévision, par la presse et même par une large part du public et des scientifiques. Et d'un autre côté, on avait en France un organisme tout à fait officiel, le GEPAN, donc le groupement d'études et d'informations des phénomènes aériens non identifiés, qui existait. Donc on a du mal à imaginer qu'on ait créé un organisme officiel qui dépend du CNES, hein, c'est quand même un organisme assez sérieux, qui étudie quelque chose qui n'existe pas. Donc si le GEPAN a existé, alors ça a été créé dans les années 70, à la fin des années 70, si on avait créé un organisme pour étudier quelque chose qui n'existait pas, ça paraît quand même assez curieux. Donc on avait ce paradoxe un peu amusant que j'aime bien citer, parce que d'un côté, c'était un phénomène bon, qui n'existait pas, qui n'était pas sérieux, et en même temps, on avait un organisme officiel au sein du CNES, hein, Centre national d'études spatiales, donc tout à fait officiel, avec des scientifiques, qui étudiaient sérieusement ce phénomène. En fait, je pense que on a toujours étudié sérieusement ce phénomène, même en France, même si face aux journalistes ou à la presse ou aux médias, on disait que c'était un sujet qui n'était pas sérieux. Et en fait, on voit que depuis les révélations qui ont été faites aux États-Unis, alors ça remonte pas qu'à 2017, avec l'article qui a été publié dans le New York Times, il y a aussi précédemment bon, des gens qui ont, ils ont averti le public de l'existence des ovnis et qui ont dit que c'était un sujet qui était sérieux. Mais on voit que ce phénomène prend de plus en plus d'importance depuis notamment les révélations qui ont été faites au Congrès américain par bon, David Grush et puis d'autres lanceurs d'alerte.
De toute
Donc
façon,
c'est un public sérieux.
oui, tout à fait. De toute façon, ce qui est vrai, c'est que même la communauté scientifique qui était réticente ou à qui on donnait des ordres de ne rien dire parce qu'il fallait pas effectivement je dirais, éclabousser, hein, je dirais, le grand public avec ça, montre qu'aujourd'hui, il y a un certain intérêt à l'ufologie, comme Michio Kaku, par exemple, qui en parle, comme Alain Blanchard, qui est un ami à moi, qui est astrophysicien, qui en parle, avec qui j'ai fait une émission sur le phénomène OVNI, qui n'y croit pas forcément en tant qu'être exogène, mais qui se pose la question de savoir ce que ça peut bien être, et qui admet que les OVNI sont un phénomène à étudier. Voilà, on a fait des émissions avec des scientifiques et des ufologues, et on se rend compte qu'il y a une certaine ça commence à s'ouvrir, ça commence à s'ouvrir un petit peu, et même les scientifiques, des scientifiques, aujourd'hui, certains scientifiques s'y intéressent largement, comme avec l'astéroïde Oumuamua qui est passé il n'y a pas longtemps, avec des révélations qui ont été faites importantes, et donc on se rend compte qu'effectivement, on a l'air d'aller dans la bonne direction. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant.
C'est plutôt encourageant et c'est vrai que ça augure peut-être de quelque chose de meilleur pour ce qu'on appelle l'ufologie. Alors l'ufologie, c'est pas une science, hein, c'est pas une science exacte. Moi, je dirais que c'est une discipline qui regroupe plusieurs sciences. C'est plutôt une espèce de synthèse de plusieurs sciences, parce que pour faire l'ufologie, il faut à la fois s'intéresser à l'astronomie, pourquoi pas à l'astrophysique, s'intéresser à l'optique, s'intéresser à la sociologie, à la psychologie. Enfin, voilà, ça regroupe un ensemble de disciplines scientifiques, même si l'ufologie en elle-même n'est pas une discipline scientifique.
Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu y fais à OVNI Investigation exactement?
Bien, écoute, OVNI Investigation, c'est une association à but non lucratif, loi 1901. Et donc, moi, j'ai 60 ans passés, donc je fais partie de cette génération d'ufologues qui, bon, on n'avait pas beaucoup Internet à l'époque. Donc, lorsqu'on voulait avoir de l'information concernant le phénomène OVNI, il y avait les livres. Mais bon, c'était pas suffisant. Donc nous, on voulait aller à la source de l'information. Et la source de l'information en ufologie, ce sont les témoins. Les témoins, c'est quelque chose qui est absolument irremplaçable en ufologie. Et aller à la rencontre des témoins, écouter les récits d'observation des témoins, enregistrer ces récits d'observation des témoins, alimenter une base de données avec ces récits et faire des analyses. Voilà, c'était le travail, je dirais, fondamental de l'association OVNI Investigation, qui a compté à une certaine époque plus d'une centaine de membres. Alors, principalement dans la région lyonnaise, puisque moi j'habite à Lyon, donc, mais aussi un peu partout en France. Ensuite, j'ai mis sur pied ce qu'on appelle le réseau, ce que j'ai appelé le réseau. C'est un réseau d'enquêteurs, donc de façon un peu moins formelle. Mais donc ce réseau d'enquêteurs était une espèce de veille ufologique. Et dès qu'il se passait quelque chose à un endroit en France, que ce soit en Bretagne, en Alsace, dans le Nord ou dans le Midi, on avait quelqu'un qui était capable de réagir rapidement et s'il y avait une observation importante, de rencontrer le témoin et d'enregistrer le témoignage de cette personne. Donc nous, OVNI Investigation, on était des gens de terrain. C'est-à-dire que notre travail principal, notre boulot, c'était d'aller à la rencontre des témoins et d'enregistrer. Et c'est la base fondamentale de l'ufologie et qu'on a peut-être tendance maintenant à oublier, mais le travail d'enquêteur reste, à mon avis, la pierre angulaire de l'ufologie.
Oui, d'accord. Et oui, de toute façon, c'est vrai que quand on enquête sur le terrain, on rapporte des informations qui sont analysées après scientifiquement et on peut faire des rapprochements avec des phénomènes soit naturels, soit pas naturels du tout. Donc, effectivement, c'est vrai que les enquêtes de terrain sont très
Voilà,
importantes.
bon, par exemple, mon livre sur les ovnis triangulaires, les triangles de la nuit, enquête sur un phénomène inquiétant, 90% des témoignages qui sont publiés dans ce livre sont des témoignages enquêtés par nous, par moi, par notre association. Bon, il y a un certain nombre de cas qui proviennent des États-Unis, bon, qui nous ont semblé assez sérieux, que j'ai mis dans le livre, mais 90% des cas, c'est des cas avec une information à la source et de première main. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on est allé pomper sur Internet où on a entendu quelqu'un qui a dit que, etc. Bon, non, non, là, c'est l'information à la source. Donc, pour moi, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable.
Pourquoi avoir dirigé tes investigations vers les ovnis triangulaires?
Alors, ouais, en fait, ça s'est fait tout seul parce que, au début des années 2000, donc notre association était en pleine activité, hein, on était connu. Je travaillais avec le site OVNI Direct, hein, qui est géré par mon ami Karim Nadjib, bon, qui est maintenant en sommeil, mais il a beaucoup fonctionné. Et donc, on a reçu au début des années 2000 énormément de témoignages dans lesquels les gens disaient avoir vu des ovnis de forme triangulaire. Ça a commencé début des années 2000 jusque dans les années 2015-2016. Donc on a reçu, et bon, j'ai pas tout publié dans le livre sur les triangles, hein, mais on a reçu des centaines de cas de gens qui disaient avoir vu des triangles en France principalement, ou alors en Suisse, ou dans les pays frontaliers de la France. Donc, on était confronté à un phénomène assez exceptionnel. D'autant plus que, bon, c'est ce que je dis souvent, lorsque on reçoit un témoignage, en fait, ça veut pas dire, ça reflète pas ce que les gens voient. C'est simplement un petit pourcentage de ce qui est vu. Et en réalité, si nous, on a récolté plusieurs centaines de témoignages concernant les ovnis triangulaires, ça veut dire qu'il y a peut-être des milliers de gens qui ont vu des ovnis triangulaires dans le ciel, tu vois. Donc c'était vraiment un phénomène, je dirais, à la fois fascinant, passionnant, mais en même temps inquiétant. Parce qu'on a fini par se demander à quoi ça pouvait correspondre, qu'est-ce que ça signifiait ces observations d'ovnis triangulaires. Pourquoi les gens voyaient tant d'ovnis Alors ces ovnis triangulaires, ils avaient des particularités. Souvent, ils volaient à basse altitude. Donc basse altitude, c'est quelques dizaines de mètres maximum, quelques centaines de mètres, dans des zones urbaines très peuplées. Bon, on a des cas à Lyon où il y avait des ovnis triangulaires qui volaient à 10-20 mètres au-dessus des toits de la ville de Lyon, en plein centre de Lyon, tu vois. Et puis, à basse altitude, lentement, souvent, ils se déplaçaient très lentement au-dessus des villes, des installations nucléaires. On connaît beaucoup de cas où des centrales nucléaires ont été observées, enfin, ou survolées par des engins de forme triangulaire. Et puis, dans un silence total. Donc, des observations d'engins à basse altitude qui volaient lentement et dans un silence total. Donc, ça nous a quand même beaucoup intrigués et on a cherché à comprendre ce qui se passait. Alors, je ne dis pas que j'ai compris, hein, mais nos recherches et puis l'enregistrement de tous ces témoignages nous ont permis de dresser, je dirais, une espèce de portrait robot de ce phénomène des ovnis triangulaires. Et on a commencé à avoir des caractéristiques de ces engins qui sont vraiment étonnantes. C'est vraiment quelque chose d'absolument étonnant.
Est-ce qu'on ne peut pas dire, après toutes les enquêtes qui ont été faites et qui ont été faites par toi, que ces engins voyagent et fonctionnent avec des énergies non conventionnelles, c'est-à-dire celles qu'on ne connaît pas, par exemple de l'antigravité, de la MHD, etc., etc. Est-ce qu'on peut pas forcément l'affirmer, mais je dirais aller sur cette piste?
Alors, bon, bien évidemment, lorsqu'on a commencé à enregistrer ces témoignages, qu'on a dressé une espèce de portrait robot de ces engins, parce que c'est bien des engins matériels, hein, avec des lumières, des feux. Souvent, il y a trois feux à chaque angle avec un feu central. Parfois, il peut y avoir une multitude de feux. Donc, on s'est beaucoup posé de questions pour savoir comment, bon, ils pouvaient fonctionner, parce que des fois, bon, c'était des engins qui faisaient 20, 30 mètres, parfois plus, et qui volaient à basse altitude sans faire de bruit. Donc, ça suppose que c'est une technologie qui, à mon avis, est très en avance sur tout ce que nous, on est capable de faire sur notre planète. Donc, alors, moi, je trouve que c'est très présomptueux, ça serait très présomptueux de ma part, de dire... Comment fonctionnent ces engins triangulaires? Je ne sais pas s'ils utilisent la MHD, je ne sais pas s'ils utilisent l'antigravité. Pour moi, ça relève une technologie et la connaissance d'une physique qui est beaucoup en avance sur notre technologie et ce que nous, on sait des lois de la physique. En plus, il y a des choses très bizarres qui se produisent. Enfin, ce qui se produisait lorsque ces témoins observaient des ovnis triangulaires, souvent les témoins disaient c'est bizarre, d'un seul coup, on a l'impression que le temps s'arrêtait et qu'il y avait un silence tout à fait anormal. C'est-à-dire que le témoin se retrouvait dans une espèce de bulle, moi ce que j'appelle la zone d'influence de l'ovni. Et que lorsque le témoin était dans cette bulle, sa perception de l'espace et du temps était modifiée. Donc, ce qui voulait dire que l'OVNI semblait être capable de modifier l'espace-temps, du moins localement, autour et aussi autour du témoin lorsque le témoin était suffisamment proche de l'OVNI. Donc, bon. Modifier l'espace-temps localement, nous, on ne sait pas faire. Enfin, du moins officiellement, il n'y a pas de technologie, mais bon, je ne crois pas. Donc là, on a affaire à vraiment à quelque chose qui est complètement différent de toutes les technologies. Donc c'est une technologie bon, qu'on peut appeler extraterrestre, exogène, etc., comme on veut, mais ce n'est pas des engins d'origine humaine, ce n'est pas quelque chose qui est humain. C'est quelque chose qui vient pas de notre planète.
D'accord.
Donc, voilà.
D'accord.
Moi, je peux pas en dire plus sur la façon dont ça fonctionne. On peut émettre toutes les hypothèses que l'on veut. Bon, je les connais un petit peu, hein, j'ai fait le tour. Mais ça reste encore des hypothèses. Tant que il n'y aura pas un triangle qui aura été craché, qu'on aura récupéré, qu'on aura étudié et essayé de comprendre comment il fonctionne, on pourra émettre toutes les hypothèses que l'on veut. Mais bon, pour moi, ça reste encore la façon dont ces engins fonctionnent. Pour moi, ça reste encore quelque chose d'assez mystérieux et d'inexpliqué. Peut-être qu'un jour, on trouvera la solution.
Oui, tout à fait, exactement. Bon, on va, après toutes ces explications, et je pense que nos auditeurs qui nous écoutent sont passionnés, on va faire une petite pause musicale de 5 minutes, et puis on va passer, bien sûr, une musique comme d'habitude qui est avec le sujet, et on revient dans 5 minutes sur les ondes de la radio. Reste en ligne, Daniel, on revient sur
D'accord,
sur les ondes de la radio.
d'accord.
Et oui, chers auditeurs, après cette musique qui nous fait voyager dans l'espace, vous avez tous reconnu X-Files, bien sûr. Voilà, nous revenons sur l'antenne avec Daniel Robin, qui est invité aujourd'hui, qui est enquêteur ufologique, qui a écrit le livre Les Triangles de la Nuit et d'autres livres. Nous venons pour parler d'ufologie, savoir d'après lui comment on peut interpréter le fait ufologique dans le monde, aussi sur les ovnis triangulaires. Et nous faisons ce grand voyage avec lui dans l'univers et en même temps sur la Terre, savoir d'où viennent ces engins, éventuellement ce qu'on peut en supposer. Alors Daniel, la question qui me vient à l'esprit après ce livre, tu as écrit un autre livre aussi, je crois.
Oui, alors j'écris trois livres en fait sur les ovnis. Le premier, c'était sur Fatima. Je me
Ouais.
suis beaucoup intéressé aux apparitions de Fatima, qui pour moi relèvent de ce que Gilles Pinon appelle la sémiologie ovnienne. Donc j'ai publié un premier livre aux éditions Québec Livre et qui a été réédité aux éditions JMUG en mai 2024. Et puis j'ai publié donc le livre Les Triangles de la Nuit, enquête sur un phénomène inquiétant en 2018, et OVNI du secret officiel aux limites de la science, un itinéraire dans l'inconnu en 2020.
Ces livres, on peut les
Donc
trouver
là,
sur quoi? Sur Amazon?
sur Amazon, oui, il n'y a pas de problème. Sur Amazon, ouais, tu peux les trouver facilement sur Amazon, il ouais, n'y a pas de problème.
D'accord.
Voilà. Et là, cette année, il y a un livre qui va sortir. Donc, c'est un ouvrage qui a été écrit avec Sarah Whiteman, qui a été co-organisatrice du congrès EcoEvent à Paris en novembre 2023 à la Sorbonne. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Donc, Sarah Whiteman, où il y avait eu des gens comme Chris Mellon, Jacques Vallée, enfin,
Oui,
Fanny Love.
j'ai eu
Donc,
quelques échos, effectivement.
voilà. Donc on a décidé d'écrire un livre qui s'appelle Briser le silence en français, sur la révélation et les lanceurs d'alerte. Donc tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis qui est extrêmement important pour l'ufologie. C'est vraiment là on a des choses qui sont en plus ça c'est des gens qui parlent devant le Congrès américain, tu vois. Imagine par exemple en France un lanceur d'alerte qui parle devant l'Assemblée nationale ou le Sénat. Tu vois, un petit peu, c'est comparable, c'est énorme. Donc voilà, on a écrit un livre sur ce sujet qui va paraître au Mercure Dauphinois fin mars 2025.
D'accord, effectivement. Et alors, sur les autres faits ufologiques, parce qu'on a parlé des ovnis triangulaires, sur les autres ovnis, qu'est-ce que tu peux en dire? Parce qu'il y a des ovnis ovoïdes, il y a toutes sortes de formes,
Oui,
cigaroïdes,
bien sûr.
effectivement. Est-ce que d'après toi, c'est comme des marques de voitures? On a des voitures Citroën, des voitures Peugeot, etc. On a différents
Voilà.
constructeurs. Est-ce que ce seraient des civilisations qui seraient les mêmes et qui auraient des ovnis différents, ou est-ce que ce serait d'après toi des civilisations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres?
Bah, tu sais, en toute modestie, j'ai pas la réponse, hein. Moi, je suis pas dans le secret des dieux, je dirais. Alors, ce qui est vrai, c'est assez étrange quand on est ufologue et qu'on étudie les manifestations d'ovnis, les engins, les engins qui se manifestent. On a toutes sortes d'engins. Après, on a des grandes catégories. Bon, les grandes catégories, c'est les engins discoïdaux, hein, en forme de soucoupe, les fameuses soucoupes volantes. Bon, à l'intérieur de cette catégorie, tu as une multitude de formes diverses, de tailles, de grandeurs, etc. Donc, là aussi, il y a une diversité étonnante. Bon, tu as les triangles, là aussi, il y a une grande diversité, malgré, si tu veux, la structure qui reste identique. Bon, on a beaucoup parlé aussi des ovnis en forme de tic-tac, hein, ces espèces d'ovnis oblongues, blancs, qui ont survolé beaucoup les bateaux de guerre américains. Et puis, bon, tu as aussi les grands cigares. Il y a une certaine époque, on a eu aussi des témoignages d'observation de cigares, c'est-à-dire des grandes structures matérielles qui passaient très haut dans le ciel et qui se déplaçaient très rapidement. Donc, on a appelé ça des vaisseaux-mères, hein, puisque ils étaient tellement grands qu'on pouvait imaginer qu'à l'intérieur, il pouvait y avoir ce qu'on appelle des garages à soucoupe ou pourquoi pas des triangles ou d'autres formes d'ovnis. En fait, quand tu regardes les formes d'ovnis, il y en a à peu près de toutes les formes. Hein, il y en a qui ont la forme d'haltère, t'en as qui sont de forme cubique, pyramidale. Alors c'est étonnant cette diversité de formes. Hein. Alors dire que chaque forme correspond à une civilisation, en fait je peux pas le dire. Alors moi j'aime bien prendre un petit exemple. Quand par exemple tu te mets sur un pont qui passe au-dessus d'une autoroute, tu vois, une autoroute à quatre voies, tu as des tas de voitures. Quand tu regardes, il n'y a pas une voiture qui est pareille. Il y a des camions, il y a des autocars, et puis il y a une multitude de voitures qui ont des formes, des grandeurs différentes. Bah, peut-être qu'en ufologie, c'est un peu pareil, si tu veux. C'est-à-dire qu'on n'en voit qu'une toute petite partie. Une petite partie, c'est comme si on était sur un pont d'autoroute et qu'on voyait passer voilà, des ovnis ou des voitures. Donc, bon, par contre, en ce qui concerne les triangles, on peut dire, parce que ça a été corroboré par les témoignages, les triangles sont liés à ce qu'on appelle les petits gris. Tu sais, c'est ces créatures avec un crâne proéminent, des yeux noirs en amande, un corps frêle, etc. Donc il y a un lien très fort entre les triangles et les petits gris, et certains témoins nous ont dit que c'était les petits gris qui pilotaient les triangles. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui repose sur des témoignages. Et alors, ce qui est aussi assez curieux en ce qui concerne les triangles, contrairement aux soucoupes des années 50 ou 60, on n'a pas ce qu'on appelle des rencontres approchées du troisième type, c'est-à-dire un engin qui se pose au sol avec des entités qui sortent de l'engin et avec une interférence avec le témoin, ce qu'on appelle les rencontres approchées du troisième type, hein, d'après la classification de Hynek. Les triangles, on n'a pas ça, c'est-à-dire que j'ai jamais enquêté sur un cas d'atterrissage d'ovni triangulaire. Ça n'existe pas. Alors, c'est des engins qui passent à très basse altitude, à quelques dizaines de mètres au-dessus des toits ou du sol, mais on n'en voit jamais qui se sont posés. Ça, c'est assez étrange, tu vois. Contrairement aux soucoupes où, à une période, ils se posaient dans les champs, ils se posaient un peu partout. Là, les triangles, non, c'est complètement différent. Mais j'ai pas d'explication, une fois encore, une fois de plus.
Ouais, effectivement, de toute façon, on a nous aussi, je dirais, sur la Terre, comme tu le dis, différents véhicules qui ont tous des formes différentes. Pourquoi pas une civilisation aurait-elle des ovnis de formes différentes suivant les constructions? Voilà, c'est tout à fait plausible. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible, effectivement.
Bien sûr.
Et puis le fait qu'il y ait des rapports effectivement avec des ovnis triangulaires, avec les gris, on a un très bon film qui s'appelle Intruder, Enlèvement extraterrestre, qui est un très bon film qui avait été fait à l'époque où on voit John Mack justement, je dirais interroger sous hypnose des gens abductés, et on voit des ovnis qui ont effectivement une forme très bizarre, qui sont limite proches, je dirais, des triangles. Et donc effectivement, là on les voit et on voit ces êtres justement avec des grands yeux, effectivement. Alors bon, bien sûr, ça c'est très critiqué dans le monde par beaucoup de gens, parce que ça sort de notre culture, je dirais, normale, et donc on n'est pas habitué à ce genre de phénomène, et quand on parle de race extraterrestre, on dit vous allez un peu loin. Mais je vois pas où on pourrait aller. Oui, dis-moi, oui.
À partir du moment où tu parles d'engins matériels, de machines, alors soit ce sont des sondes automatiques, hein, pilotées par une intelligence artificielle, ce qui n'est pas non plus idiot, soit il y a des créatures qui pilotent ces engins. Il y a forcément des entités qui les pilotent ou qui les ont fabriquées.
Mais c'est par rapport à notre culture, c'est par rapport à la culture humaine. On nous
Oui, bien
éduque,
sûr.
on nous éduque pas avec ça, donc on prend ça pour
Oui.
quelque chose qui est parasite. Et donc tous les gens qui sont ouverts d'esprit vont y croire, et les gens qui ont la culture, je dirais, ancienne de ce qu'on leur a inculqué quand ils étaient jeunes, vont conserver l'idée que bah, c'est pas possible. Donc voilà. Mais
D'accord.
il faut absolument que il y a une ouverture d'esprit qui soit grande aujourd'hui, et que les gens analysent que dans l'univers, il y a des planètes qui sont des exoplanètes, qui sont certainement habitées parce que nous ne sommes pas les seuls, parce qu'il y a des exoplanètes. Moi qui suis astrophysicien, je peux vous le dire, il y a des recherches qui sont faites par des astrophysiciens compétents dans le monde, et on a découvert des planètes qui ressemblaient fortement aux conditions qu'on a d'habitation sur la Terre. Donc, pourquoi pas imaginer que des peuples puissent vivre sur d'autres planètes que nous? On n'est pas les seuls dans l'univers. L'univers n'est pas un tableau de peintre pour faire joli. C'est simplement que l'univers est là pour nous faire comprendre qu'il y a d'autres civilisations et qu'on n'est pas les seuls.
Tout à fait, oui. Alors, je voulais rajouter un petit complément à la question des formes, la diversité des formes des ovnis. Il y a encore un paramètre dont il faut tenir compte, c'est-à-dire qu'il y a eu des observations d'ovnis qui changeaient de forme. C'est-à-dire que les témoins ont vu, par exemple, des sphères lumineuses très très brillantes, notamment bon, dans les cas d'observation d'ovnis triangulaires, et cette sphère, à un moment donné, s'est transformée en triangle. Donc tu vois, même au niveau des soucoupes, on a eu des témoignages où des gens voyaient des soucoupes qui pouvaient changer de forme. C'est-à-dire qu'on est confronté à une physique qui manipule, à mon avis, l'espace, le temps, la matière et l'énergie. Et pour une civilisation qui est capable de manipuler la matière et l'énergie, créer un engin qui change de forme, ça paraît pas complètement absurde. Donc tu vois, ça vient encore rajouter une complexité supplémentaire au fait qu'on observe une diversité de formes. C'est-à-dire que le même ovni peut avoir plusieurs apparences suivant les cas. Voilà, bon, ça fait réfléchir.
Ben disons qu'on se pose toujours la question comment un objet, d'abord physique, matériel, s'il est matériel et pas énergétique, peut changer de forme, parce que ben, tout simplement la structure atomique se démolécularise et reprend une
Voilà.
forme différente. Mais comment les êtres
Exactement.
qui sont à l'intérieur peuvent survivre s'ils manipulent la matière? Donc il y a en fait tellement de questions qui se posent qu'on est incapable aujourd'hui de comprendre de telles technologies, parce que ça nous dépasse complètement.
Exactement, exactement. Tout à fait. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. Ça nous dépasse. En même temps, je trouve ça fascinant, hein. Et heureusement, bon, comme tu disais très justement, l'univers actuel connu est immense, est immense. Bon, nous, dans notre galaxie, il y a au moins entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Il y a plusieurs milliers de milliards d'étoiles dans la galaxie. Imagine le nombre de civilisations potentielles qui peuvent exister et qui sont peut-être venues nous voir ou nous visiter. Donc, et ces civilisations sont certainement beaucoup, beaucoup plus avancées que la nôtre. Ça me paraît être des présupposés qui ne sont pas complètement irrationnels, tu vois. Donc, surtout avec ce que l'on sait de la structure de l'univers.
Oui, voilà, tout à fait. Exactement. Alors, pour conclure cette belle émission, je dirais, qu'est-ce que tu crois dans le futur qui va se passer? Est-ce qu'on va assister à une déclassification globale du phénomène OVNI? Est-ce que tu crois que l'humanité est prête à entendre la vérité? Est-ce qu'on va rester dans le mutisme? Qu'est-ce que tu penses?
Si je regarde nos dernières recherches, là, les recherches qu'on a faites avec Sarah Whiteman sur ce qui se passe aux États-Unis, c'est plutôt encourageant. Alors, ça ne vient pas forcément des Français, mais ça vient principalement des Américains. Et là, je sens qu'il y a comme une ouverture vers quelque chose qui, comment dirais-je, une espèce d'officialisation de la reconnaissance des ovnis, du phénomène ovni, d'engins qui viennent d'une autre planète ou d'une autre civilisation. Et c'est en passe de devenir, parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment on ne se rend pas compte en France, mais les Américains, le sujet ovni, pour eux, c'est au cœur de leur culture, hein. Ils en parlent beaucoup, il y a des débats, on en parle au Congrès, il y a d'anciens militaires, d'anciennes personnes des services de renseignement qui en parlent, qui divulguent des informations. Lorsque tu te plonges dans cet univers qui est bouillonnant, qui est vraiment très intéressant, tu te dis que les choses sont en train de bouger, et ça bouge dans le bon sens. Donc moi, je serais plutôt optimiste et peut-être qu'on se dirige vers une divulgation officielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, du moins aux États-Unis, les autorités sont obligées de reconnaître qu'effectivement, on sait que bon, bah, il y a vraiment des engins qui ne sont pas humains, qui se déplacent dans l'atmosphère terrestre, qui ont contacté peut-être des êtres humains, qui ont survolé des sites sensibles, notamment des sites où il y avait des silos avec des ogives nucléaires. Voilà. On va vers une reconnaissance officielle, du moins aux États-Unis. En France, ça prendra peut-être un peu plus de temps.
On est un peu plus fermé à ce genre de phénomène en France. On est plus
Eh
ancré sur nos
oui, il y a un
traditions,
problème.
je dirais. On est plus traditionnel et la culture française est plus traditionnelle. La culture américaine est beaucoup plus ouverte d'esprit à des
Oui.
choses modernes. Je dirais que nous sommes plus, voilà, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est la façon de voir les choses n'est pas la même.
Oui, et puis en fait, on s'aperçoit que bah, on est toujours à peu près à la traîne des Américains, c'est-à-dire qu'on a 10 ou 20 ans de retard par rapport à eux. Donc eux, ils commencent déjà à bouger maintenant. Nous, bah, ça sera peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, tu vois. Mais ça sera, ça sera, ça sera. Il faut être simplement un petit peu plus patient. Ouais.
Daniel, merci infiniment pour ce beau témoignage. Merci infiniment. Comment on peut te trouver? Comment on peut éventuellement, si on veut, on observe
Bah,
un
j'ai
ovni,
un
comment on peut
blog,
faire?
bon, j'ai un blog qui est consacré à mes recherches ufologiques et où il y a tous mes livres qui sont publiés. Sans ça, bon, si tu fais Daniel Robin, OVNI, Triangle, tu vas vite tomber sur mes livres et sur mon blog. Si tu fais Daniel Robin, OVNI, Triangulaire, blog post. Donc tu tomberas sur mon blog et puis je t'enverrai l'adresse mail si tu veux. Enfin,
D'accord. C'est pour
l'adresse
les
mail de
auditeurs, pour
mon
les gens qui
blog.
veulent éventuellement témoigner parce qu'ils ont vu un objet
Bah, il faut
volant et éventuellement,
qu'il
pour qu'ils puissent te contacter.
Oui, bah, je t'enverrai l'adresse où les gens peuvent déposer un témoignage. Il y a une page, je consacre sur mon blog une page où les gens peuvent déposer un témoignage. C'est important, oui.
D'accord. Bon, bah très bien. Merci Daniel, merci infiniment pour ce beau
Merci,
témoignage.
merci
Merci
beaucoup.
beaucoup. C'était très très intéressant, très passionnant. Sachez que la semaine prochaine, on aura une autre émission. Alors le sujet, on ne le connaît pas encore parce que on doit avoir une réponse de quelqu'un la semaine prochaine. Il y aura un sujet de toute façon. Et voilà, on se retrouve jusqu'au mois de juin pour des belles émissions. Il y aura encore une émission ufologique aussi au mois de mai sur le phénomène OVNI. Et puis de belles émissions sur l'écologie, sur sur notre planète effectivement, sur les étoiles aussi. Il y aura des émissions sur les étoiles aussi et également. Donc voilà. Merci Daniel, merci, merci beaucoup.
Merci, Patrick. À très
Merci, au
bientôt.
revoir.
Au revoir. Au revoir.
Je vous laisse avec une musique, bien sûr. Je vous laisse avec une musique. Je vous laisse. On va voyager avec Abyss. Voilà, pour fermer cette émission. Vous connaissez tous Abyss. Vous avez tous vu l'émission. Enfin, pas l'émission, le film Abyss, qui est un grand film où on a des êtres exogènes, des OANI, justement, ceux qui sont au fond de l'océan. Donc, on va passer cette musique pour la fin de l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci à tous encore et encore bonne année pour cette année 2025. Merci à tous. porte de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.